Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Pauline, une endo-girl. Je vous accueille dans le podcast d'EndoBloom, la plateforme du Lab AMI dédiée à l'endométriose, qui accompagne les femmes et leur entourage en recherche de réponses sur cette maladie chronique avec laquelle on doit apprendre à vivre au quotidien. Dans ce podcast, nous avons donné la parole aux soignants, ce que toute endo-girl en errance de diagnostic souhaiterait rencontrer. À l'écoute, ouvert, empathique et surtout spécialiste du sujet. Ils nous racontent leur métier et leur point de vue sur la prise en charge de l'endométriose en France. Et nous espérons que cela vous apportera des clés pour mieux vivre avec cette maladie et l'envie de ne jamais rien lâcher. Et maintenant, bonne écoute!
Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Fabien Piasco, diététicien nutritionniste et auteur. Il a accepté de nous parler de son métier et de son lien avec l'endométriose. Merci Fabien.
Oui, bonjour à tous. Merci Pauline pour cette invitation.
Alors, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier et son lien plus spécifique avec l'endométriose ?
Alors, le lien avec l'endométriose vient du fait que je travaille dans un établissement thermal spécialisé en gynécologie, dans lequel j'ai été amené à travailler sur la nutrition pour la santé des femmes et chercher des solutions pour l'endométriose. Donc, je suis dans le domaine de la santé depuis plus de 20 ans, ayant été préparateur en pharmacie pendant 18 ans et demi, puis diététicien en même temps. Et j'ai été amené à travailler dans cet établissement thermal, où initialement, j'ai beaucoup travaillé sur le cancer du sein. Puis, avec l'écuriste endométriose, j'ai commencé à chercher les liens possibles entre l'alimentation et l'endométriose, ce que l'on pouvait faire en nutrition pour soulager dans cette maladie. C'est ça qui m'a amené à travailler sur le sujet et qui m'a amené d'ailleurs à écrire le livre « L'alimentation anti-endométriose ».
Très bien. Et alors, on reviendra sur les cures thermales et leurs bienfaits un peu plus tard. Mais pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que l'alimentation anti-inflammatoire et quels en sont ses grands principes ?
Oui. Alors, l'alimentation anti-inflammatoire a différents principes, mais je tiens à souligner que dans le cas de l'endométriose, il y a une approche anti-inflammatoire, mais ça ne se limite pas à ça. Il y a d'autres grands principes, comme les perturbateurs endocriniens, etc. Ça ne se limite pas qu'à ça. Cependant, l'alimentation anti-inflammatoire est essentielle pour l'endométriose. Alors, elle a plusieurs principes, en effet. Un des piliers de l'alimentation anti-inflammatoire, c'est l'équilibre des acides gras. Il faut savoir que dans l'organisme, certains médiateurs anti-inflammatoires proviennent des acides gras. En quelque sorte, certains acides gras qui dérivent des graisses que l'on consomme, qui vont s'intégrer dans le corps, dans les cellules, vont se transformer en molécules inflammatoires. C'est le cas notamment de certaines prostaglandines qui sont impliquées dans l'endométriose. Et de ce fait, on va pouvoir moduler les médiateurs inflammatoires, donc les molécules qui agissent comme des messagers inflammatoires dans le corps, en choisissant les acides gras. Donc il y a certains principes comme les oméga-6 sont pro-inflammatoires. Alors c'est un oméga-6 en particulier, on pourra y revenir, mais très simplement, voilà, oméga-6 inflammatoire et oméga-3 anti-inflammatoire. Après, il y a d'autres acides gras qui sont impliqués aussi. Les acides gras saturés sont inflammatoires et les oméga-9 sont anti-inflammatoires. Donc ça, c'est le premier pilier, on va dire, de l'alimentation anti-inflammatoire. Une autre partie, c'est la gestion du stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est quand dans le corps, il y a trop d'oxydation par rapport à notre capacité antioxydante. Et du coup, cet excès d'oxydation va engendrer des dommages à l'organisme. Alors, il y a plein de façons d'améliorer son système antioxydant, et il y a également les apports d'antioxydants directs, comme certaines vitamines. Donc ça, c'est un des deuxièmes points de l'alimentation anti-inflammatoire. Mmh. Ensuite, l'équilibre acido-basique, voilà, l'équilibre entre les acides que va produire l'organisme et les bases, bien que ce point ne soit pas trop développé dans l'endométriose. Et pour finir, l'ensemble intestin, flore intestinale, barrière intestinale et système immunitaire. Ça, par contre, c'est un point crucial dans l'endométriose. Donc, il y a un ensemble de principes dans l'alimentation qui font que si on fait les bons choix, Alors, il y a aussi d'autres petites choses. Hein. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais si on fait tous les bons choix, nous allons avoir moins de médiateurs inflammatoires dans l'organisme et réduire l'inflammation dans le corps. Et ça, on peut clairement agir via l'alimentation.
Et alors, justement, on parle d'inflammation, d'alimentation anti-inflammatoire, mais pourquoi spécifiquement c'est recommandé dans le cadre de l'endométriose et quels sont les bienfaits de l'alimentation qui reprennent les grands principes que vous venez de citer?
Alors, recommander, pas exactement dans le sens pas recommander officiellement. Officiellement, il n'y a pas de recommandation de l'HAS qui dit qu'il faut manger comme ci ou comme ça pour l'endométriose. Ça, il faut être clair. D'ailleurs, je le dis dans mes bouquins, il n'y a pas de guideline, de recommandation qui dit qu'il faut manger de telle façon. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a aucun intérêt, bien au contraire. Ça, je peux vous assurer qu'avec l'expérience que j'ai depuis de nombreuses années, l'alimentation a un impact considérable sur l'endométriose. Donc, recommander officiellement, pas vraiment, mais à recommander par certains spécialistes de l'endométriose, oui. Il y a des grands noms de l'endométriose, de l'imagerie ou des chirurgiens à l'endométriose qui préconisent cette alimentation, c'est vrai. Mais officiellement, ce n'est pas instauré. Il faut savoir que l'endométriose est une maladie inflammatoire. Ça, beaucoup le savent, notamment à cause des douleurs. Donc, c'est une maladie dans laquelle il y a énormément de médiateurs inflammatoires dans l'organisme et surtout dans les lésions. Donc, c'est une maladie inflammatoire. Mais il faut également savoir que l'inflammation va stimuler le développement de l'endométriose. Donc, plus il y aura de molécules inflammatoires dans le corps et dans les lésions, plus ces lésions ou ces kystes vont se développer. Donc, c'est comme s'il y avait un cercle vicieux. La maladie fabrique de l'inflammation, mais l'inflammation fait proliférer l'endométriose. Donc, il faut absolument casser ce cercle vicieux. Or, l'alimentation permet de réduire l'inflammation. Et c'est largement prouvé dans des tas de maladies. La nutrition peut réduire l'inflammation. Donc, c'est comme si on enlevait un premier engrais qui fait pousser l'endométriose. Là, on change le terrain et en améliorant ce terrain, finalement, on espère réduire la maladie. Ensuite, donc ça, c'est le premier engrais que l'on retire en quelque sorte grâce à une baisse de l'inflammation. Deuxième chose, l'endométriose, c'est une maladie où le stress oxydatif est très prononcé. Comme dans beaucoup de maladies d'ailleurs, mais particulièrement dans l'endométriose. Or, avec l'alimentation, on peut réduire les processus d'oxydation, les processus oxydatifs. Alors, il y a plein de choses à faire.
Et alors, pour les non-initiés, pardon, est-ce que vous pouvez juste préciser ce qu'est le stress oxydatif ?
Oui, alors c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quand dans le corps, on a trop d'oxydation, un peu comme de la rouille cellulaire, hein, si vous voulez. C'est comme si on mettait un bout de fer à l'extérieur, sous la pluie, il va rouiller, voilà, à cause de l'oxygène et de l'eau. Dans le corps, c'est un petit peu pareil. Donc, tout être vivant a de l'oxydation. Le simple fait de vivre, il y a des processus d'oxydation. Heureusement, le corps est bien fait. On a des systèmes qui neutralisent l'oxydation pour éviter de mourir au bout de quelques secondes. Donc, le stress oxydatif, c'est quand, dans le corps, il y a trop d'oxydation par rapport à notre capacité antioxydante, par rapport à notre capacité à neutraliser cette oxydation. Et dans l'endométriose, il y a ce déséquilibre, trop de radicaux libres, trop d'oxydation par rapport aux capacités antioxydantes, et ça apporte des dommages. Et là aussi, il y a un cercle vicieux. L'endométriose va créer du stress oxydatif, mais le stress oxydatif va faire proliférer l'endométriose. Ça, c'est démontré dans plein d'études scientifiques. Or, avec l'alimentation, on peut réduire le stress oxydatif. Alors, avec toutes sortes de choses, des substances dans les végétaux, comme les polyphénols, qui vont booster les défenses antioxydantes. Ça peut être les vitamines antioxydantes, la vitamine C, la vitamine E. C'est également éviter les processus de stress oxydatif que le corps met en place. Par exemple, si on a des hyperglycémies, on mange des choses trop sucrées ou trop transformées, le sucre sanguin augmente, et quand la glycémie est haute, il y a du stress oxydatif. Donc on va éviter ce phénomène. Il y a aussi les aliments grillés, les graisses abîmées par la cuisson, etc., qui sont directement des composés oxydants. Donc, on va éviter ces composés oxydants. On va éviter que l'organisme produise de l'oxydation par plein de mécanismes. Et du coup, on va réduire le stress oxydatif. C'est un deuxième engrais que l'on va retirer, un deuxième engrais qui pourrait favoriser l'endométriose. Ensuite, dans l'endométriose, il y a des processus hormonaux. L'endométriose est une maladie hormonale où il y a une hyperœstrogénie et une résistance à la progestérone. Alors, pour être tout à fait clair avec ça, l'hyperœstrogénie, donc l'excès d'œstrogène, est dans les lésions, se situe dans les lésions d'endométriose. Ce n'est pas forcément dans tout l'organisme qui a trop d'œstrogène, bien que ça puisse arriver. C'est plutôt au sein des kystes, au sein des lésions. C'est à l'intérieur de ça qu'on a considérablement trop d'œstrogène. Et la résistance à la progestérone, alors il peut y avoir soit un déficit en progestérone, soit une résistance à la progestérone, c'est-à-dire en quelque sorte que ça ne fonctionne pas. Et c'est présent surtout à l'intérieur de l'endométriose. Je le précise puisque certaines femmes vont faire des bilans hormonaux pour la fertilité et vont se rendre compte qu'au contraire, elles n'ont peut-être pas assez d'œstrogène. Elles n'ont peut-être pas assez d'œstrogène par les ovaires, puisque les ovaires sont abîmés par l'inflammation et le stress oxydatif, mais elles ont nécessairement beaucoup trop d'œstrogène dans l'endométriose elle-même. Ça, c'est un point très très important. Et grâce à l'alimentation, on peut moduler les œstrogènes dans le corps. Ça peut paraître un peu étrange, mais il y a plein de choses qui peuvent faire augmenter ou descendre les œstrogènes dans l'organisme. Un tout petit exemple rapide, l'alcool. L'alcool fait augmenter les œstrogènes dans le corps. Raison pour laquelle l'alcool est impliqué dans le cancer du sein, par exemple. Quand on boit de l'alcool, il y a deux phénomènes qui interviennent. Ça stimule une enzyme qui fabrique des œstrogènes, qui s'appelle l'aromatase, et dans le même temps, ça bloque la phase 1 de détox hépatique, donc un processus de détoxification au niveau du foie, des œstrogènes. Donc on se retrouve avec l'alcool à fabriquer plus d'œstrogènes et à être en difficulté pour les détoxifier, les éliminer. Donc ça c'est un exemple, parmi tant d'autres, qui fait que l'alimentation peut jouer sur les œstrogènes par exemple. Ensuite, il y a tout le pavé sur les perturbateurs endocriniens. Donc les perturbateurs endocriniens sont des substances, alors généralement étrangères au corps, souvent fabriquées par l'humain avec l'industrie, on va dire, l'industrie du pétrole, la plasturgie, etc., tout ce qui est combustion, les incinérateurs et compagnie. Et ces molécules-là, elles vont en fait mimer les œstrogènes dans l'organisme. Si on les appelle perturbateurs endocriniens, c'est parce qu'elles perturbent. Elles vont avoir des effets trop œstrogéniques par moment, ou au contraire, empêcher les vrais œstrogènes de fonctionner, et ça c'est un problème dans la fertilité par exemple. Et dans l'endométriose, ce que j'ai expliqué dans mon bouquin « L'alimentation anti-endométriose », il y a des preuves diverses pour les perturbateurs endocriniens, de leur implication probable dans le développement de la maladie. Et ça, il y en a plein, les dioxines, les PCB, les pesticides organochlorés, les bisphénols, les phtalates, le PFOA, etc. Donc toutes sortes de perturbateurs endocriniens. Or, alors, il faut savoir qu'il y en a de partout, ça c'est un peu le côté dramatique, on va dire, tous les aliments en contiennent, mais en faisant des bons choix, on peut considérablement réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Donc là, c'est comme une sorte de troisième engrais que l'on retire de nouveau. On va jouer sur l'équilibre hormonal, le fait d'avoir moins de perturbateurs endocriniens, et tout ceci va limiter des phénomènes de développement de la maladie. Donc c'est en quelque sorte un troisième engrais que l'on enlève. Si tout à l'heure je disais qu'il n'y avait pas que l'inflammation, bah par exemple les perturbateurs endocriniens, c'est pas nécessairement par des processus inflammatoires qu'ils vont agir, même si il y a des phénomènes qui vont aboutir sur l'inflammation, mais initialement c'est plutôt une perturbation de la signalisation hormonale. Donc ouais, on peut agir aussi là-dessus. Okay. Et le dernier point de cette alimentation, c'est le lien avec l'intestin. Il faut savoir qu'il y a une connexion très forte entre l'intestin et l'endométriose. Par exemple, les femmes qui ont de l'endométriose ont un risque trois fois plus élevé d'avoir le syndrome de l'intestin irritable.
C'est un des symptômes les plus cités d'ailleurs.
Exactement, tout à fait. Qui fait partie du diagnostic, on va dire. Même sans imagerie, quand il y a des douleurs de règles abominables et l'intestin irritable, il y a de grandes chances qu'il y ait de l'endométriose. Donc oui, en effet, les troubles intestinaux et également le terrain inflammatoire allergique des femmes qui ont l'endométriose, qui est très 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 augmenté par rapport aux femmes qui n'ont pas la maladie et qui a un lien très étroit avec l'intestin. Dans l'endométriose, on remarque très souvent l'intestin irritable, la dysbiose, c'est-à-dire les déséquilibres de la flore intestinale, et l'hyperperméabilité intestinale, c'est-à-dire tout simplement des intestins poreux, des intestins avec des micro-trous. Alors, quand on dit des trous, c'est microscopique, hein, ce n'est pas des trous dans l'intestin lui-même, hein, c'est plutôt de léger écartement des cellules de la membrane de l'intestin, de l'épithélium intestinal. Donc, un intestin poreux comme une sorte de passoire, en fait, et qui laisse passer dans le sang des éléments étrangers qui vont stimuler les réactions immuno-inflammatoires. Donc, en agissant sur l'intestin, par plein de choses, hein, en rééquilibrant l'alimentation, en arrêtant le gluten, par exemple, on pourra y revenir, le gluten favorise la porosité intestinale, on va pouvoir améliorer l'intestin, lui redonner son rôle de filtre, et du coup, générer moins d'inflammation d'origine intestinale. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas d'endométriose localisée aux intestins, travailler sur l'intestin est primordial pour des femmes atteintes d'endométriose. Par exemple, une femme qui aurait uniquement de l'adénomyose, donc de l'endométriose localisée à la partie musculaire de l'endomètre, donc à l'intérieur de l'utérus uniquement, ça a également un intérêt. En fait, il y a l'intestin, indirectement, peut être un foyer d'inflammation. L'intestin, à partir du moment où il est en dysbiose, que la flore est complètement déséquilibrée, qu'il est poreux, il va induire de l'inflammation dans tout le corps. L'inflammation va aller jusqu'au cerveau, dans le cœur, dans les muscles, dans absolument toutes les parties du corps, et l'intestin peut être en cause là-dedans. Et ça, c'est le dernier point sur lequel on peut agir. Si on améliore ce point, on va enlever un quatrième engrais qui favorise l'endométriose. En quelque sorte, en améliorant le terrain, on peut espérer une réduction du développement de l'endométriose. Certaines études ont montré que l'alimentation peut réduire les symptômes de l'endométriose. C'était prouvé dans plein d'études. On n'a pas pu prouver que ça réduisait la maladie en elle-même, mais j'ai pu le voir de très nombreuses fois dans mon expérience que la maladie pouvait régresser grâce à l'alimentation.
Donc c'est un vrai vecteur d'espoir. Alors merci pour toutes ces précisions. On le voit, le sujet est vaste et donc je pense peut, pour celles qui débuteraient, être un peu inquiétant. On peut se dire, mais par où commencer et comment faire? Alors justement, vous, quelle va être votre approche en consultation? Comment ça va se dérouler pour arriver à entrer dans le sujet et débuter, puisqu'il faut bien débuter quelque part.
Oui, tout à fait. Oui, exactement. C'est vrai que c'est un vaste sujet. Et puis, on est tenté d'essayer des trucs les uns après les autres, dans n'importe quel ordre, et puis un peu de s'y perdre. Donc, il y a vraiment des basiques à respecter. Et après, on peut étendre à d'autres choses. Donc, ce que je conseille de manière générale, c'est d'avoir une alimentation riche en oméga 9 et en oméga 3, limitée en graisse saturée et en oméga 6. Alors, une alimentation riche en oméga 9, ça va être avec de l'huile d'olive, de l'huile de colza, parce que l'huile de colza contient des oméga 3, mais surtout beaucoup d'oméga 9, des avocats, des amandes, des noisettes, tous les fruits à coque. Ça, c'est pour les oméga 9. Mmh. Et les oméga 3, c'est-à-dire les poissons gras, sardines, maquereaux, saumon, truites, les œufs oméga 3, ce sont des œufs de poule élevés aux graines de lin. Ça va vraiment agir sur l'inflammation, sur les médiateurs inflammatoires. Limiter en graisses saturées, les graisses saturées, c'est les graisses laitières et les graisses animales, d'une manière générale, et les oméga 6, qu'il faut limiter également, c'est les graisses animales surtout qui contiennent l'oméga 6 le plus méchant, et puis aussi éviter absolument les huiles riches en oméga 6, comme l'huile de tournesol, l'huile de pépins de raisin, etc. L'alimentation doit être riche en antioxydants, donc pour qu'elle soit riche en antioxydants, il faut qu'elle soit riche en végétaux. Et comme il se peut souvent qu'au début, les intestins soient sensibles, il vaut mieux essayer de trouver des sources riches en antioxydants, faciles, on va dire, à tolérer sur le plan digestif. Donc là, les épices douces, la cannelle, cannelle de Ceylan, le curcuma, ce genre de choses, qui d'ailleurs ont des preuves dans l'endométriose, hein, ce que j'ai expliqué dans mon bouquin « Endométriose, approche naturelle ». On va utiliser ces trucs-là. On va utiliser les myrtilles, les fruits rouges, etc. Toutes sortes d'aliments végétaux riches en antioxydants. On va réduire le sucre d'ajout. Il faudra éviter de mettre du sucre de partout. Hein, ça c'est... Ou de consommer des aliments transformés qui en ont. Puisque le sucre, par plein de mécanismes différents, est pro-inflammatoire. Il modifie la flore. Manger du sucre, ça fait changer la flore d'une flore saine vers une flore qui devient pro-inflammatoire. Ça, par plein d'autres mécanismes aussi, par le stress oxydatif, l'hyperglycémie, par plein de choses, ça augmente l'inflammation. Éviter l'alcool. Donc en gros, une alimentation qui déjà a une base d'aliment, une base, on va dire, de régime méditerranéen. D'ailleurs, il y a une étude autrichienne qui a montré que le régime méditerranéen peut soulager dans l'endométriose.
L'alimentation, là, va avoir un impact sur les troubles digestifs, mais aussi sur les douleurs pelviennes et génitales.
Déjà, il faut savoir que les principes de l'alimentation anti-inflammatoire sont les mêmes pour tout le monde, ça c'est sûr. Donc, il y a toujours cette base d'alimentation méditerranéenne à avoir, au minimum, avec laquelle on peut rajouter encore d'autres choses. Hein. Le fait qu'elle soit biologique, parce que les pesticides sont des perturbateurs endocriniens, qu'on évite les graisses animales qui fixent la dioxine et d'autres perturbateurs endocriniens, qu'elle soit peu transformée, mais bon, ça fait partie du régime méditerranéen. Donc ça, c'est la base. Mais souvent, ça peut déjà soulager, c'est le prérequis. Ça, toutes les femmes devraient faire ça. Ensuite, là où je préconise une deuxième approche, qui est déjà plus restrictive et qui généralement donne des résultats spectaculaires, c'est l'arrêt du gluten et des produits laitiers. Alors, j'explique pourquoi. Donc, le gluten, on a dit, il favorise la porosité intestinale. Et quand on arrête d'avoir les intestins poreux, on a l'inflammation qui baisse drastiquement. Et deux études sur l'endométriose ont montré que l'arrêt du gluten soulage dans l'endométriose. Et quand je dis soulage, ce n'est pas uniquement l'intestin. Ça soulage, ça diminue les douleurs pelviennes, c'est-à-dire les douleurs de règles, les douleurs prémenstruelles, les douleurs de règles, et ça peut soulager également les douleurs pendant les rapports sexuels. Donc ce n'est pas forcément lié aux intestins, on n'attend pas que un soulagement des troubles digestifs. Et il faut aussi savoir que la porosité intestinale ne fait pas mal. Ce qui fait mal aux intestins, ce sont l'inflammation aiguë. S'il y en a, oui, ça peut faire mal. Mais souvent, c'est une inflammation un petit peu plus légère. C'est surtout les distensions, donc dues au ballonnement. La distension abdominale peut faire mal déjà, sans compter que si ça appuie sur des endroits au niveau du bassin, ou si même il y a des lésions intestinales d'endométriose, comme elles sont très innervées, la distension créée par les gaz, créée par les ballonnements, vont énormément titiller le système nerveux, et ça va faire très mal. Mais donc, si vous voulez, ce qui fait mal au ventre, c'est surtout les distensions abdominales et les spasmes. Parce qu'il y a souvent des spasmes au niveau de l'intestin. Ça fait mal. Par contre, la porosité intestinale peut être complètement silencieuse. Ça, il faut bien comprendre l'intérêt de travailler sur l'intestin, même chez des femmes qui disent ne pas avoir vraiment des troubles digestifs. Donc, quand on arrête le gluten, on va avoir une amélioration de tous les processus inflammatoires dans le corps. En arrêtant le gluten, on peut avoir moins mal dans le dos, dans les jambes, dans les épaules, par exemple. Voilà, des endroits typiques où les femmes atteintes d'endométriose ont mal. L'épaule droite, les jambes, les lombaires, par exemple. Et on peut avoir un soulagement dans le cou, le haut du dos aussi. On peut avoir un soulagement à ces endroits-là qui sont très éloignés de l'intestin. Donc, deux études ont montré que l'arrêt du gluten soulage. Et l'explication qu'on peut donner, c'est que ça a un impact intestinal qui a un impact indirect sur tout l'organisme ensuite. Donc généralement, ce que je préconise, c'est de plutôt faire une prise de sang pour vérifier qu'il n'y a pas la maladie cœliaque. Ça, c'est important sur le plan médical. Mais là, il faut vraiment savoir ce qu'il en ressort. Si il s'avère qu'on est cœliaque, qu'on a la vraie intolérance au gluten, c'est une maladie auto-immune pour laquelle il faut faire un régime sans gluten à vie, Bah, on le sait. Et bon, généralement, on fait une prise de sang et après une endoscopie, comme une gastroscopie, bon, on va un peu plus loin pour faire un petit prélèvement dans l'intestin. Et s'il s'avère que c'est une maladie cœliaque, sachant que la maladie cœliaque est beaucoup plus représentée chez les femmes qui ont l'endométriose que chez les femmes lambda qui n'ont pas d'endométriose, dans ce cas-là, on est sans gluten à vie. Mais si la prise de sang revient négative, ça, il y a de grandes chances que ça soit le cas quand même, parce qu'il y a plus de gens qui ne sont pas cœliaques que de gens qui sont cœliaques. Hein. Eh bien, ça ne veut pas dire que l'arrêt du gluten ne sert à rien, puisqu'on peut être hypersensible au gluten non cœliaque, ce qui est quasiment toujours le cas des femmes qui ont l'endométriose. Ça, je le précise, puisque le médecin va dire, ma pauvre dame, vous voyez bien que vous n'êtes pas cœliaque, vous n'avez pas de problème avec le gluten, mangez du blé. Manger du blé, mais en fait, le problème, c'est que quand on arrête le blé, ça va beaucoup mieux. Donc, même si la prise de sang revient négative pour la maladie cœliaque, au moins, on est tranquille, on n'a pas cette maladie, mais ça ne veut pas dire que l'arrêt du gluten ne sert à rien. Généralement, l'arrêt du gluten crée quand même de sacrés résultats. Donc ça, c'est un truc que je préconise à essayer, voilà, si on a, après avoir fait ce test, pour être sûr. Les produits laitiers, pourquoi les produits laitiers, on devrait essayer de les enlever? Alors, très simplement, les études ne montrent pas de lien entre les produits laitiers et l'endométriose. C'est ça qui peut paraître paradoxal, mais partout dans le monde, en Europe, dans tous les pays d'Europe, en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, en Australie, etc., en tout cas dans le monde occidental, les femmes qui ont l'endométriose arrêtent les produits laitiers et sont soulagées. Pourquoi ? Alors, c'est parce qu'en fait, elles ont un terrain très propice aux allergies alimentaires et aux intolérances alimentaires. Et comme les produits laitiers font partie des aliments pour lesquels il y a le plus d'intolérances alimentaires, quand on les enlève, généralement, on voit une amélioration. Alors, ça ne marche pas chez toutes, mais généralement, les résultats sont spectaculaires. Le truc qui se passe, c'est que beaucoup arrêtent seulement la vache et pas la chèvre et la brebis. Mais avec cette approche, déjà, ça ne marche pas forcément chez tout le monde. On peut très bien être sensible à la chèvre ou à la brebis quand même. Moi, c'est mon cas personnellement, donc je suis intolérant à absolument tous les produits laitiers dont je ne mange plus du tout depuis très longtemps. Donc on peut être intolérant aussi à la brebis, par exemple. Et beaucoup pensent que c'est que le lactose le problème. Or, ce n'est pas le lactose forcément le problème. Alors, c'est possible d'avoir une intolérance au lactose, hein, c'est tout à fait possible. Mais souvent, c'est l'intolérance, c'est l'hypersensibilité aux protéines du lait, notamment la caséine. Et quand on enlève tous les produits laitiers, on enlève la caséine, obligatoirement. Et quand on enlève les produits laitiers, on enlève aussi beaucoup de perturbateurs endocriniens qui se fixent dans le gras du lait. Donc, ce que je conseillerais, finalement, c'est d'essayer ce schéma-là, sans gluten, sans produits laitiers, chez à peu près toutes les femmes qui ont l'endométriose.
Finalement, là, tout ce que vous me citez, c'est une boîte à outils assez riche et on se dit qu'on a vraiment de quoi agir. Mais est-ce que cette boîte à outils, elle est aussi adaptable? Parce que pour certaines, ça peut paraître beaucoup de contraintes.
Oui, ça peut oui, tout à fait.
Est-ce qu'en fonction des cas, on peut adapter et piocher ce qui nous fait du bien en fonction de ses symptômes, de sa pathologie, etc.
Alors, c'est vrai pour certaines choses, sachant que là, je n'ai pas tout cité, il y a encore d'autres choses. Par exemple, il y a le régime FODMAP qui est très populaire. Le FODMAP, c'est un acronyme en anglais qui signifie en fait tout simplement, pour résumer, les sucres fermentés cibles. Alors les monosaccharides, disaccharides, les polyols, etc. Donc des sucres qui, dans l'alimentation, une fois ingérés, vont fermenter dans l'intestin. Et il y a un régime qui consiste à les éviter. Mais par exemple, ce truc-là, je le conseille vraiment. Si la première approche avec l'arrêt du gluten et des produits laitiers n'a pas fonctionné ou n'a pas suffi. Parce que généralement, quand on arrête le gluten et les produits laitiers, les intestins vont tellement mieux qu'on peut de nouveau tolérer certains aliments qui ne passaient plus du tout. Par exemple, manger des brocolis, par exemple. Vous voyez ? Donc, y a plein de choses qui existent, mais c'est vrai que piocher certaines choses et pas toutes, pour être tout à fait clair avec ça, j'ai des années d'expérience dans le domaine de l'endométriose, les femmes qui ont eu le résultat les plus spectaculaires faisaient tout à la virgule près. Alors, c'est-à-dire sans gluten, aucun, sans produits laitiers, aucun, sans alcool, aucun, Le sucre ajouté, c'était des quantités minimes de sucre complet à droite à gauche, mais c'était vraiment rien du tout. Une alimentation très naturelle, bio, avec des volailles, du poisson, des œufs oméga-3, des fruits, des légumes, des épices douces, etc. Et celle-ci n'avait plus aucune douleur, plus de douleur de règles, plus de syndrome prémenstruel, plus de douleur pendant les rapports sexuels, et certaines avaient régression des lésions à l'IRM, voire disparition des lésions à l'IRM. Voilà, ça c'est ce qui faisait tout bien. Par contre, c'était très impressionnant en effet. Alors, je ne dis pas que ça marche chez tout le monde, je ne peux pas affirmer ça, mais chez certaines, c'est le cas. Alors après, si on pioche certaines choses à droite, à gauche, c'est toujours mieux que rien. Dans le sens où certaines femmes qui ont l'endométriose vont se renseigner sur l'alimentation et puis vont se dire, oula, mais c'est énorme, c'est vraiment des changements très importants et ça va être trop. Donc, il y en a pour qui c'est un électrochoc et du jour au lendemain, elles changent tout. Et en effet, elles vont beaucoup mieux. Et d'autres, chez lesquelles, les changements vont être très doux. C'est-à-dire d'abord changer les graisses dans l'alimentation, manger plus naturel, arrêter d'aller tout le temps au KFC, de manger du boire d'alcool, de manger du McDo, de manger du palmi, de la confiture, enfin de manger un peu n'importe quoi. Et d'améliorer l'alimentation, elles vont déjà avoir des améliorations. Donc certaines vont mettre des semaines, des mois à changer l'alimentation. Donc y a pas, c'est pas la course. Si une femme met un an pour faire ses changements alimentaires, très bien, elle prend le temps qu'elle veut, le temps qu'il faut, c'est pas un problème. Mais, y a certaines choses qui peuvent être spécifiques. Donc une femme qui n'aurait pas du tout d'hypersensibilité aux produits laitiers ne ressentira peut-être pas de changement en les arrêtant. Mais le fait qu'elle évite le beurre, la crème, le fromage, les produits laitiers gras et les produits laitiers tout court fera qu'elle aura moins de perturbateurs endocriniens et peut-être que les répercussions seront long cours. Donc il y a quand même certains éléments qui vont se recouper et qui vont agir de façon bénéfique même si tout n'est pas ressenti. Par contre, il y a des femmes qui, en faisant plein de choses pour lesquelles ça ne va pas suffire. Donc c'est là où il y a une personnalisation qui peut intervenir. On peut, par exemple, découvrir une intolérance à un aliment qui n'est pas du tout ce que j'ai cité. On peut très bien avoir une intolérance à une céréale qui n'a pas de gluten ou un aliment auquel on ne pense pas du tout. Et le fait de changer cet aliment pour un autre pourra soulager. Donc ça, ça peut se voir, on peut le voir plus tard. Alors ça peut voir aussi avec des prises de sang, les anticorps IgG, qui ne sont d'ailleurs pas recommandés par les allergologues. C'est là encore toute la confusion. C'est des prises de sang qui sont controversées, mais qui sont parfois fort utiles pour trouver quel aliment peut poser problème. Donc là, on a des fois des personnes qui vont être intolérants, par exemple, je dis n'importe quoi, au sarrasin, par exemple, au quinoa, alors que ça faisait partie de leur alimentation qu'elles avaient mis en place contre l'inflammation. Donc ça, ça pourrait être personnalisé après. Et puis, il y a certaines personnes qui, avec l'endométriose, ont quelque chose qui s'est développé conjointement. Alors, à cause ou peu importe le sens, si c'est l'endométriose qui a favorisé ou cette chose qui a favorisé l'endométriose, mais on peut avoir d'autres problèmes. On peut avoir par exemple un SIBO, donc c'est une hyperprolifération des bactéries dans l'intestin grêle, alors que normalement les bactéries devraient être surtout concentrées dans le côlon et non pas dans le grêle. Il peut y avoir ça, il peut y avoir une intolérance à l'histamine, une histaminose, il peut y avoir des tas d'autres trucs, des fois une candidose, plein d'autres choses qui font que là, en effet, on peut trouver une autre chose à traiter. C'est là que ça peut se personnaliser plus. Voilà, donc pour répondre à la question, en effet, on peut piocher si on n'a pas la possibilité de tout faire tout de suite et faire ça progressivement. Mais par contre, le modèle alimentaire qui a des résultats souvent spectaculaires, c'est quand même assez souvent le même chez beaucoup. Voilà. Donc, ça, il faut le savoir, en effet.
Ok. Très bien. Non, mais c'est important et merci de le préciser. Ça, voilà, ça donne différents niveaux de levier et c'est encourageant parce qu'il y a plein de pistes à explorer et chacune le fait ensuite à son rythme. Voilà. Alors, je vais revenir.
Pardon, je t'ai coupé la parole. Allez. Juste une chose importante à rajouter sur les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire. C'est vrai qu'une endogirl qui a déjà quelques soucis psy, qui ne se sent pas très bien dans sa tête, qui a déjà des TCA, anorexie, boulimie, enfin toutes sortes de TCA. Ce type d'alimentation-là, à prendre avec des pincettes, hein, c'est assez compliqué. Il faut déjà avoir géré les TCA pour faire ça, sinon ça peut les majorer. Donc s'il y a une instabilité psychologique, il faut pouvoir encaisser, c'est restrictif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire non, ce n'est pas restrictif. C'est restrictif dans le sens où il y a des choses qui n'y a plus. Certes, on les remplace par d'autres, voilà, mais c'est restrictif. Donc, pour les TCA, attention. Voilà, si,
oui, et puis, même hors TCA, il faut être prête à le faire. Je pense qu'il faut se faire accompagner.
Tout à fait.
Voilà, ça, on ne change pas comme ça du jour au lendemain et on ne le fait pas forcément seul.
Oui, puis il y a tellement de choses à savoir que des fois, on peut faire des erreurs. Hein, donc, c'est mieux d'être suivi, en effet. Tout à fait.
Bien sûr. Alors, quel constat vous faites sur la prise en charge de l'endométriose en France au vu de vos consultations, puisque ça fait des années maintenant que vous êtes lié à ce sujet?
Alors, le constat sur la maladie et la prise en charge, bon, ça, toute personne qui connaît le domaine de l'endométriose sait que le diagnostic est super lent, qu'il faut des années, 7-8 ans pour être diagnostiqué, etc., que ce n'est pas encore assez reconnu, que les médecins ne connaissent pas assez la maladie. Tout ça est bien connu dans le domaine de l'endométriose. Voilà.
Oui.
Donc, l'alimentation, fort heureusement, a évolué. Enfin, la question de l'alimentation, ça a évolué ces dernières années. Alors, parce que déjà, il y a pas mal de spécialistes de l'endométriose qui ont lu mon bouquin et qui, du coup, par l'argumentation scientifique, voient que ça tient la route. Alors, je n'ai pas précisé, mais dans le bouquin, il y a plus de 300 références scientifiques. Ce n'est pas juste basé sur des principes à la va-vite ou comme ça, on dit que ça serait bien sans preuve. Tout est basé quand même sur la science. Les preuves scientifiques ne sont pas suffisantes pour faire des recommandations officielles, mais il y a énormément de recherches dans le domaine de la nutrition, de la micronutrition de l'endométriose, qui est peut-être plus de la recherche expérimentale avec beaucoup d'études in vitro sur des animaux, etc., et un peu moins d'études sur d'intervention sur des humains, c'est vrai, mais il y a quand même une grosse littérature qui a servi de base à la rédaction du livre. Donc déjà, il y a ça qui fait que c'est un peu plus pris au sérieux, et surtout les spécialistes, à force de voir des femmes atteintes d'endométriose qui vont beaucoup mieux grâce à l'alimentation, ont été obligés de se rendre à l'évidence que l'alimentation joue énormément. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de spécialistes qui maintenant la préconisent. Donc pour ma partie, je veux dire, j'ai pas à me plaindre spécialement en disant voilà, l'alimentation, ça va pas du tout, personne ne prend au sérieux. Ça s'est beaucoup amélioré. Par contre, c'est vrai que d'autres domaines dans l'endométriose sont encore critiquables, ça c'est sûr. Mais pour ma part, c'est vrai que l'alimentation, ça progresse, on va dire.
Et tant mieux, parce que c'est une clé de lecture et d'accompagnement. Mais alors justement, il y a souvent un peu à tort un clivage entre médecine conventionnelle et thérapie dite alternative complémentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je comprends que vous, ça n'impacte pas tant votre métier, mais voilà, que penser un peu de ce clivage, alors que finalement, dans la plupart des cas, quand on écoute les témoignages des femmes atteintes d'endométriose, c'est bien la complémentarité des accompagnements qui est efficace.
Oui, tout à fait. Alors, il ne faut pas forcément les mettre en opposition, et ça peut être complémentaire, tout à fait. Ce n'est pas parce qu'il y a une pilule avec un progestatif continu, par exemple, qu'on ne peut rien faire avec l'alimentation. Alors, à titre d'exemple, il y a eu une étude sur le Dienogest. Donc, le Dienogest, beaucoup connaîtront, c'est la pilule spécifique endométriose, on va dire. C'est un progestatif de synthèse qui est utilisé pour... C'est Visan, Sawiz, Dimetrum, par exemple. C'est une pilule spéciale endo, on va dire, que beaucoup prennent et connaissent. Et il y a une étude sur le Dienogest avec ou sans régime sans gluten. Donc, ils ont testé chez des endogirls la pilule toute seule ou bien la pilule et un régime sans gluten. Et c'est quand on rajoute le régime sans gluten qu'on a de meilleurs résultats sur différentes évaluations de la qualité de vie, des douleurs, etc. Donc, même si on a une pilule continue, par exemple, ou d'autres thérapies, l'alimentation joue quand même. Et c'est ce truc-là des thérapies complémentaires ou alternatives, ça dépend comment on place la chose, c'est toujours bien de l'avoir en plus. Oui. Par exemple, le yoga, la méditation, la sophrologie, l'activité physique, toutes sortes de choses qui peuvent être ajoutées sont bénéfiques. Par exemple, le yoga, il y a plein d'études sur le yoga et l'endométriose. Ça peut paraître surprenant, mais il y a des études qui ont démontré l'effet.
Tout à fait.
Donc, il faut agir sur tous les fronts. Par exemple, faire des activités anti-stress est bénéfique sur l'endométriose. Pourquoi ? Parce que le stress psychologique augmente le stress oxydatif. Le stress psychologique change la flore intestinale, crée de la porosité intestinale. Le stress psychologique va induire de l'inflammation systémique. C'est-à-dire qu'être stressé, ça va faire augmenter l'inflammation dans tout le corps.
Bon, alors comme quoi, tout est lié.
Donc c'est très important. Donc si on dit à une personne, bon, bah, ne sois pas stressé, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais par contre, pratiquer des activités qui peuvent être anti-stress, la cohérence cardiaque ou d'autres choses, ça va être bénéfique. Donc il faut avoir une approche
globale.
Globale, voilà, etc. Pour vraiment agir sur tous les fronts.
Okay.
Et truc très 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 important, ça je tiens à le préciser, n'attendez pas d'utiliser la nutrition en dernier recours, parce que ça je l'ai souvent vu, hein, des femmes ont fait anti-inflammatoires de toutes sortes, pilules de toutes sortes, elles voulaient tomber enceinte, elles n'y arrivaient pas, PMA à multiples reprises, avec des protocoles, avec des analogues de la GNRH, des piqûres pour mettre en ménopause artificielle, des traitements dans tous les sens. Et en fait, le corps va quand même prendre, il va prendre cher quand même avec tous les traitements. Et du coup, c'est dommage d'arriver à la fin et pour dire, bon, bah, il me reste l'alimentation, et la nutrition, la micronutrition. Ça, c'est la plus grande erreur. C'est pas forcément que je prêche pour ma paroisse, hein. C'est vraiment une erreur stratégique. Il vaut mieux commencer par ça.
Alors, finalement, vous devancez un peu ma dernière question qui était, avez-vous un conseil, une bonne pratique à donner aux femmes qui nous écouteront ? Ce serait ça, votre bonne pratique ? Ce serait d'utiliser l'alimentation en amont, finalement ?
Exactement. C'est-à-dire que, pas forcément le lendemain du diagnostic de l'endométriose, hein, mais envisager l'alimentation, la nutrition et la micronutrition comme un outil de première intention et non pas en dernier recours. Ça, ce serait vraiment un problème, puisque malheureusement, alors je ne fais pas un discours anti-médicaments, absolument pas, jamais je ne dis d'arrêter un traitement ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que les traitements ont toujours une contrepartie. Même si certains traitements vont être bénéfiques, il y a toujours une contrepartie. Il peut y avoir une contrepartie. Par exemple, les pilules progestatives continuent, eh bien, il est possible de prendre beaucoup de graisse, prendre 10-15 kilos. Or, la graisse abdominale, va sécréter des cytokines inflammatoires, va sécréter des œstrogènes, donc il y a un effet un peu contre-productif. Il y a à chaque fois quelque chose qui peut ne pas aller. Si on compte sur les médicaments, par exemple, les anti-inflammatoires, on prend des anti-inflammatoires, par exemple de l'antadis, du fluorbiprofène, de l'ibuprofène, etc., ou d'autres anti-inflammatoires, ça va créer de la porosité intestinale. Alors, que va faire le médecin pour protéger l'estomac ? Il va mettre un IPP, un inhibiteur de la pompe à protons, omeprazole, pantoprazole, lansoprazole et compagnie. Malheureusement, ce truc-là va favoriser la dysbiose intestinale. Et dans tous les cas, ça n'empêchera pas l'anti-inflammatoire de causer des dégâts aux intestins. Peut-être qu'au niveau de l'estomac, ça va mieux, mais les intestins vont passer en hyperperméabilité. Donc, les médicaments auront toujours un effet secondaire quelque part qui peut empirer les choses. Donc le problème, c'est que quand on prend des tonnes de médicaments, on peut amener à avoir d'autres trucs. On prend par exemple des opiacés, on prend de la codéine, du tramadol. Voilà, ça peut ralentir le transit. Quand le transit est ralenti, ça favorise les dysbioses, ça peut favoriser le SIBO, et ainsi de suite. Donc en fait, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de médicaments, absolument pas, mais envisager la nutrition au début.
Et un complément peut pallier à ces effets secondaires des médicaments.
Ça peut, en effet, par l'alimentation, par certains compléments alimentaires, contrecarrer certains effets secondaires des médicaments. Par exemple, pour les piqûres de GNRH, qui peuvent être faites soit pour, on va dire, pour un peu assécher l'endométriose, pour la réduire. Ce sont des piqûres qui vont bloquer totalement la communication entre le cerveau et les ovaires, qui va mettre en ménopause, artificielle, médicamenteuse, totale. Ça a des effets secondaires parce que ça crée une forte carence en œstrogène. Et ça peut, par exemple, provoquer une perte de densité osseuse, une sorte de début d'ostéoporose. Ça, on peut le compenser avec la vitamine D et de la vitamine K. Bien prendre D3 plus K2, par exemple. Donc, en fait, il y a une approche aussi, à côté de la nutrition, qui est la micronutrition. Donc, la micronutrition, c'est un point sur lequel j'ai beaucoup travaillé aussi. J'ai fait beaucoup de recherches scientifiques au niveau de la littérature scientifique dans ce domaine-là, pour voir ce qui pouvait être bénéfique. C'est d'ailleurs ce qui est dans mon petit bouquin « Endométriose, approche naturelle ». Et j'ai aussi même développé avec un laboratoire toute une gamme de produits pour agir spécifiquement dans l'endométriose. Donc il y a la nutrition, on va dire, côté alimentaire, donc vraiment l'équilibre alimentaire, le côté alimentation spécifique, et puis il y a le côté micronutrition. La micronutrition, c'est prendre certaines substances, généralement sous forme de gélules, même s'il existe d'autres formes, en plus. Et ceci n'a pas que pour but de corriger une carence, même s'il y a de nombreuses carences dans l'endométriose. La carence en vitamine D est très importante dans l'endométriose, mais il y a plein d'autres trucs. Mais c'est aussi pour créer un effet thérapeutique qui n'est pas forcément toujours lié à une carence. Donc là, dans le domaine de la micronutrition, il y a énormément de choses qui peuvent agir dans ce domaine-là.
Et alors, le mot de la fin, parce que c'était un échange riche, vous nous avez partagé une expertise qui est technique, qui est assez poussée, qui donne à la fois plein de pistes, mais qui peut paraître un grand chantier. Donc, ce serait quoi le mot de la fin en une ou deux phrases pour dire aux femmes, allez-y, l'alimentation, ça peut être une solution, ça peut vous faire du bien et ce n'est pas si compliqué.
Oui, alors déjà, redire que c'est important de mettre en place la nutrition, la micronutrition en premier recours et surtout pas en dernier recours. Et s'imaginer que même si ça peut paraître restrictif et un déprimant, je vais vous dire un peu le retour que me font les femmes qui suivent ça. Beaucoup me disent, notamment en conférence, « Fabien, tu es bien gentil, mais surtout pour celles qui sont pas au courant de ça, qui arrivent là. » J'en vois d'ailleurs en cure qui sont à la conférence, puisque pour les curistes endométriose, la conférence est gratuite. Donc elles sont conviées à venir à la conférence que je fais chaque mois pendant les périodes de cure thermale. Et certaines ne connaissent pas du tout. Et quand elles me regardent, elles me disent « Mais Fabien, ton truc, c'est la déprime. » Et moi, ce que je leur dis, ce que je leur réponds, c'est voilà ce que me disent les femmes qui suivent cette alimentation-là depuis un moment. Au contraire, elles me disent que ça va considérablement mieux et qu'elles ne sont plus déprimées. Voilà, elles sont plus déprimées parce que, alors, je ne dis pas de le faire, mais certaines ne prennent plus de pilules progestatives. Il faut savoir que les pilules continues, ça peut mettre dans un état de dépression, parce que la carence en œstrogène peut induire une dépression. Donc, le fait qu'elles n'aient plus ça, elles vont mieux. Le fait qu'elles n'aient plus de syndrome prémenstruel, de douleurs de règles abominables, de douleurs pendant les rapports sexuels, que leur qualité de vie va beaucoup mieux, qu'elles sont considérablement moins fatiguées, puisque la fatigue est quand même une résultante du stress oxydatif et de l'inflammation, elles vont beaucoup mieux, et au contraire, elles ne sont plus déprimées. Alors certes, elles ont un mode de vie qui est différent, elles vont faire beaucoup plus attention à différentes choses, mais au final, ce nouveau mode de vie n'est pas déprimant. Au contraire, elles vont beaucoup mieux, même sur ce plan-là. Donc, se dire que même si c'est un gros chantier, comme on le disait, ça peut avoir des répercussions tellement bénéfiques sur la qualité de vie qu'on n'aura plus de déprime, justement. Donc, donc mon conseil, c'est essayer l'alimentation, la micronutrition. Voilà, et après, vous pourrez juger, sachant que c'est tellement vaste que même si on n'a pas de résultat avec quelque chose, il y a toujours une raison qui fait que ça ne marche pas ou on n'a pas ciblé le bon truc. Donc, il y a toujours quelque chose sur lequel on peut agir. Voilà, donc,
et ce sera le mot de la fin qui sera donc positif, parce que c'est important, je trouve, de de donner de l'espoir aux femmes atteintes d'endométriose. Donc, merci vraiment, Fabien, pour toute cette expertise et pour toutes ces pistes et cette boîte à outils pour les femmes.
Merci, merci de m'avoir écouté et de m'avoir reçu pour ce podcast.
C'est la fin de cet épisode. J'espère que cet échange vous a aidé à y voir plus clair et à trouver des pistes pour mieux comprendre et appréhender l'endométriose. Retrouvez d'autres témoignages et partages d'expertise pour mieux vivre avec l'endométriose sur le site endobloom.fr. Et à bientôt pour de nouveaux épisodes.